Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, je reçois un personnage emblématique du sport mondial, Thomas Bach. De 2013 jusqu'en 2025, cet ancien escrimeur allemand a présidé le CIO, le Comité International Olympique. Il est devenu le 9e président du CIO, champion olympique d'escrime en fleuret, francophile, proche de l'ancien souverain pontife Pape François. Cet avocat de profession a marqué l'histoire du sport mondial, mais Thomas Bach est aussi un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holy Games.
Guten Tag, Thomas Bach.
Bonjour.
Bonjour. Je ne suis pas spécialiste d'allemand, je n'ai pas appris l'allemand, mais je voulais quand même vous introduire en allemand, parce que vous êtes allemand.
Impeccable.
Willkommen à Europe 1, dans cette belle maison, et vous voyez derrière vous, vous avez donc cette belle image, Les Athlètes de Dieu. C'est une émission que nous produisons sur Europe 1 avec Holy Games.
Je vois même à ma gauche Laura Fessel. Alors,
oui, grande championne olympique d'escrime. Et voilà. Ancien ministre des Sports.
L'escrime.
C'est un sport absolument magnifique. On va revenir ensemble avec vous sur cette carrière, mais à la lumière de la foi, de votre foi, de la foi chrétienne. Une émission donc vous proposons avec Holy Games. On vous demandera, Président, si vous avez un lieu particulier pour vous ressourcer, un saint qui vous inspire, une phrase de l'Évangile qui vous est chère et une musique qui vous apaise. D'abord, comment allez-vous? Parce que l'actualité, elle est très chargée. Au moment où nous enregistrons cette émission, les Jeux de Milan viennent de se terminer. Les Jeux paralympiques reprennent. Et vous y étiez à Milan. Ça a été un immense bonheur, j'imagine.
Oui, c'était un immense bonheur et plaisir parce que c'était mes premiers Jeux olympiques à lesquels j'ai assisté. Sans avoir aucune responsabilité. Alors, c'était une expérience unique et je me suis réjoui pleinement de cette expérience.
Comme un supporter, comme un fan.
Comme un fan du sport, ouais. C'est ce que je voulais faire tout le temps. J'ai dit, alors, après ma retraite, je veux être ce que j'ai toujours été pendant toute ma vie, c'était un fan de sport et des athlètes.
Alors, Président Thomas Bach, on aura dans cette interview des moments où on parlera en anglais, et j'accueille Jean-Luc Sergent, qui est pasteur et qui fait partie de l'aventure Holy Games. Merci Jean-Luc d'être avec nous dans cette émission.
Avec grand plaisir.
Alors, dans cette émission Les Athlètes de Dieu, Président Thomas Bach, on a une tradition. Il y a 4 bougies devant vous. Alors, on va en allumer une, et comme je disais à Fabien Pelouse, qui était à votre place il y a quelques temps, on va pas l'allumer de façon réelle, parce que sinon les alarmes incendies vont se déclencher. En revanche, on a une bougie électronique, vous voyez, voilà, qu'on allume, et vous pouvez choisir l'une des 4 bougies. Et il y a une phrase dessus, sur l'évangile, de l'évangile. La bleue, il y a une rose. Alors, vous êtes en train de scruter ça avec attention, il y a une bougie verte. Et une bougie jaune. Alors, verdict. Ah ! La jaune ! Alors, pourquoi la jaune, Président Thomas Bach, sur Europe 1 ?
Parce que, alors, les dernières seront les premiers dans le sport. Ça ne s'applique pas toujours. Et par la victoire, grandit son éclat aussi, c'est un peu... Je sais pas.
Ça vous inspire moins.
Ça m'inspire moins. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça aussi, ça n'applique pas toujours à la vie, hein, parce qu'il y a des périodes où on se sent vraiment faible et on réalise encore beaucoup plus tard que de temps en temps, la faiblesse vous fait fort, hein, à long terme.
Et dans votre vie d'athlète, de président du CIO, il y a eu des moments difficiles, de faiblesse, justement, vous en parlez là, vous en faites allusion.
Toute ma période comme président du CIO n'était pas facile, et il y avait beaucoup de décisions à prendre. où on se sentait très très seul et où on pouvait pas partager tout avec son entourage et tous les doutes. Par exemple, pour organiser les Jeux Olympiques de Tokyo sous la condition d'une pandémie, c'est là j'aurais communiqué mes doutes que j'avais chaque jour. Ces Jeux n'auront jamais organisé. Parce que c'était, comme on dit en anglais, une self-fulfilling prophecy. Si même j'aurais communiqué de doutes, alors tout serait tombé.
Et il y a eu ces Jeux à Tokyo.
Et là, c'était des moments très, très difficiles. Et alors, j'ai prié chaque jour, avant et pendant les Jeux, qu'il nous aide. Et il nous a aidés.
La prière a été quelque chose de très important dans votre vie. Vous vous êtes appuyé sur la prière. On est dans cette émission Les Athlètes de Dieu. La prière, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, c'est fondamental parce que là, on n'est pas seul. Et on réalise on n'est pas seul. C'est un des mots de l'Évangile qui me touche beaucoup, où Jésus dit à ses apôtres qu'il sera avec eux jusqu'à la fin des temps. Et ça, en priant, on peut l'expériencer, qu'on n'est pas seul, qu'on est entouré, qu'on est accompagné.
La bougie que vous avez allumée, c'est une bougie jaune. Est-ce que, Thomas Barr, vous pouvez nous lire la phrase qui est écrite sur cette bougie, pour qu'on puisse en parler?
Puisez votre énergie dans le Seigneur.
C'est exactement ce que vous venez de nous dire.
Oui.
Vous avez puisé vos réussites dans le Seigneur, vous avez puisé en priant, en vous tournant vers Dieu pour essayer d'avancer toujours, malgré les difficultés.
Oui, c'est ça. Alors, d'organiser ce que personne n'avait fait avant, de reporter le jeu et après de les organiser pendant une pandémie. Là, chacun qui a participé à cet effort, je pense, a réalisé qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Il y a des millions de facteurs. Imaginez-vous, on aurait eu le premier jour à Tokyo quelques cas de Covid.
Ça aurait été la catastrophe. Et ça s'est pas passé comme ça.
Et ça, on peut faire ce qu'on veut. Après, on a fait tout ce qu'on pourrait faire avec l'OMS, avec les experts, avec tout le monde. Mais on dépend ce que les laïcs considèrent d'être les forces majeures. Et là, on dépend de l'aide du ciel.
Jean-Luc Sergent est avec nous, on va en profiter, parce que c'est pas tous les jours que vous êtes là, mais puiser votre force dans le Seigneur, c'est un psaume qui est important. Vous pouvez un peu nous parler de ces psaumes?
Les psaumes, de toute façon, de manière générale, pour les sportifs, c'est une source, et pour les chrétiens, c'est une source de prière immense, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans les psaumes. On peut, justement, quand on est faible, quand on est fort, quand on a des adversaires qui nous entourent. Donc évidemment, puiser votre force dans le Seigneur, il y a quelque chose, et c'est un commandement, il y a quelque chose de fort, il y a pour le sportif presque une injonction de se tourner aussi vers Dieu, vers le spirituel. Il y a le mental, il y a le corps, évidemment, mais il y a quelque chose d'autre. Et donc oui, des psaumes, dans mon expérience d'aumônier, sont très très importants comme recueil de prières.
Aumônier des sportifs, Jean-Luc Sergent et Thomas Barr, vous vous appuyez aussi sur les psaumes. Il y en a un que je lisais en pensant cette interview: dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il a agi à travers vous?
Ça, à travers moi, ça je ne crois pas. c'était arrogant de dire ça. Ça serait arrogant. Mais je crois qu'il nous accompagne, qu'il nous aide. Et l'Évangile dit clairement, demandez
et vous recevrez.
Au Père et... il va vous donner, et ça, mais je ne crois pas que quelque chose, ça passe à travers moi, alors je ne suis pas l'ambassadeur. de Dieu. Hein.
Mais vous êtes un athlète de Dieu.
C'est un outil de temps en temps.
Alors Thomas Barr, sur Europe 1, avant de revenir sur votre parcours à la lumière justement de Dieu, j'aimerais juste faire une petite parenthèse qui est d'actualité puisqu'on enregistre ce podcast au mois de mars, mais on va inviter tous ceux qui le souhaitent à venir à la chapelle des sportifs qui est située à côté du Parc des Princes et du stade Jean Bouin, c'est l'église Sainte-Jeanne de Chantal, et vous y étiez à cette inauguration. Comment ça s'est passé, Président ?
C'était une cérémonie très digne et magnifique et en même temps avec la joie que le sport et la foi peuvent offrir s'ils se mettent ensemble. Alors c'était très digne et très sympa au même temps.
Il y a des beaux maillots, je crois, qui sont exposés dans la vitrine.
Oui, mais la chapelle, là, il ne s'agit pas des maillots, c'est plutôt spirituel. Et de voir des athlètes anciens et actuels se rassemblant pour inaugurer cette chapelle, c'était une très très belle expérience et c'était aussi la première cérémonie d'ouverture à laquelle j'ai assisté ici à Paris où il n'a pas plu.
Ah ben alors ça c'est oui parce que les Jeux Olympiques de Paris 2024, on s'en souvient, il y avait eu un déluge.
Oui, et Notre-Dame, même chose.
Sur le parvis de Notre-Dame où vous aviez accueilli des
sportifs. Non,
des sportifs.
Après...
Et pour l'inauguration de Notre-Dame, de la cathédrale.
L'inauguration
absolument,
de
oui,
Notre-Dame.
Je m'en souviens.
Alors, c'était vraiment... Et l'idée... est brillante et j'espère que ça va donner une inspiration à beaucoup de communes et pas seulement en France.
Thomas Barr, je vous donne cette image et je vous demande de la commenter pour nous dans cette émission Les Athlètes de Dieu.
Alors ça c'était un moment très très émouvant de porter la croix des athlètes. Et en entrant à Saint-Pierre par la porte sainte et finalement de placer la croix devant l'autel de Saint-Pierre, c'était des moments très très émouvants et pour moi c'était en effet le deuxième jubilé de sport. Je l'ai vécu déjà à l'an 2000 avec pape Jean-Paul II. Au stade olympique à Rome et avec aussi une rencontre avec le pape le jour avant. Et maintenant, le deuxième jubilé de sport et dans ce moment de transition entre les deux papes, François et Léon, qui sont tous les deux ou ont été de grands amateurs du sport, de grands promoteurs des valeurs olympiques. Peut-être la croix...
Elle est lourde ou pas, cette croix?
Non, mais peut-être la loi cache ma face un petit peu, sinon vous pourrez voir très clairement mes émotions.
Vous étiez très très heureux. Alors, vous me tendez une perche, Thomas Barr, parce que vous avez donc présidé le CIO de 2013, je crois, à 2025, enfin de nombreuses années. Et en tant que président de cette instance qui organise notamment les Jeux Olympiques, vous avez rencontré de nombreux papes. Ça doit faire quelque chose quand on est croyant de rencontrer un pape, même quand on est dans l'habit d'un grand dirigeant sportif, de parler, d'avoir ce moment privilégié avec le chef de l'Église.
Ouais, à ce moment-là, j'ai rencontré le pape François plusieurs fois. Je pense 6 ou 7 fois dans des audiences privées. La première, juste après mon élection, on a été élu en même année, à 2013. Ah. Et moi, j'étais élu à Buenos Aires.
Ah, c'est un signe.
C'était un signe et pendant la première audience... On a parlé de son club de foot préféré, San Lorenzo, et ça a créé une certaine...
connivence, sympathie, amitié.
Les Anglais diraient « chemistry ».
La chimie.
La chimie. Chemistry, la chimie. Ouais.
L'alchimie, en français, peut-être.
L'alchimie.
Et là, on s'est rencontrés plusieurs fois et j'ai, lui aussi, décerné à un moment l'ordre olympique au Nord. Et comme vous savez, les papes, normalement, ils n'acceptent pas des ordres, mais lui, il l'a accepté. Son entourage n'était pas si
content, mais...
si content et heureux, mais lui, il a bien apprécié.
Et avec Pape François, vous avez parlé un peu de football, parce que lui, c'était un grand, grand fan, vous l'avez dit, de San Lorenzo. C'est presque, un socios, quelqu'un, le Pape François allait au stade, et il avait, lors de ses jubilés de sportifs, moi j'ai pu y aller...
Il y a eu la Coupe du Monde de 2022.
Et il y a eu la Coupe du Monde 2022, où l'Argentine a gagné en plus.
Contre la France.
Contre la France.
Non, là, on a pas... C'était seulement pendant la première audience où on a parlé de San Lorenzo.
Mais pas de la victoire de l'Argentine.
Non, pas la victoire de l'Argentine. Après, là, on a parlé plutôt des valeurs olympiques et en élaborant un petit peu... pas seulement un petit peu, mais comme le sport et la foi partagent les valeurs, mais aussi pour faire les différences. Et en 2016, nous avons organisé alors le pape comme hôte, mais avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et moi-même comme président du CIO. Nous avons organisé une grande conférence au Vatican sur la foi et les valeurs. Et ça, c'était une autre étape dans notre de coopération. En plus que juste avant, j'avais créé l'équipe de réfugiés qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro pour la première fois. Alors, 2016. On avait assez de thèmes pour nos entretiens. Mmh.
Ouais. C'est vrai que ça a été un moment important dans votre présidence, et on va redérouler le film. Mais cette équipe des réfugiés, ça a été pour vous l'une de vos réformes phares, apporter de l'humanisme, apporter de la joie, de la paix, puisqu'on sait que le sport, c'est un outil de paix.
C'était pas une réforme. C'était une geste humanitaire. Parce que je me souviens toujours, alors j'ai vu les images à la télé des milliers, des centaines, des milliers de réfugiés. Et à un moment donné, je me suis dit, alors, entre tous ces champs-là, il y a beaucoup de jeunes aussi, là, il doit être des athlètes. Entre eux, on doit avoir des athlètes. Il doit avoir des jeunes athlètes qui rêvent leur rêve olympique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner d'espoir? Et pour réaliser peut-être même leur rêve olympique. Et ça, c'était le moment où j'ai commencé à communiquer avec mes collaborateurs et collègues au CIO. C'était pas facile au début, parce que là, il y avait des arguments légaux. La charte olympique ne prévoit que des athlètes du comité national olympique, et qu'est-ce qu'on fait, comment les choisir et tout ça. Mais j'étais toujours convaincu que d'une manière ou l'autre, il faut le faire. Et là, j'étais dans un avion pour aller à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. pour introduire et défendre la trêve olympique pour le jeu de Rio. Pendant le vol, j'ai dit alors, ça c'est le moment. Ce discours devant l'ONU, ça c'est le moment et ça c'est l'assemblée idéale pour l'annoncer. Alors je suis allé voir mon porte-parole et je lui dis alors maintenant il faut changer le discours. On a rédigé le discours et après j'ai dit alors le moment où on atterrit à New York, il faut que tu me communiques avec le comité exécutif et avec les collaborateurs les plus proches de les avertir que dans quelques heures je vais annoncer cette participation de réfugiés aux Jeux Olympiques de Rio. Alors c'était une geste humanitaire pour ces jeunes athlètes. Franchement, j'ai pas pensé trop aux conséquences. Après, j'ai réalisé.
C'est le rôle d'un leader.
Les difficultés.
Thomas Barr, est-ce que, a posteriori, justement, cette équipe des réfugiés olympiques, ça vous donne pleinement, on va dire, de la joie, de la satisfaction d'avoir osé le faire, même s'il y avait quelques barrières?
Oui, ça me donne de satisfaction. Et parce que jusqu'à maintenant, cette équipe existe et j'ai fait beaucoup d'expériences en parlant avec ces athlètes réfugiés et aussi avec des réfugiés qui sont pas des athlètes. Comment cette équipe donne vraiment l'espoir aux réfugiés. Et ça, on voulait faire, on a dit, là à Rio, ces athlètes, they don't have a home.
Ils n'ont pas de maison, oui.
Ils n'ont pas un drapeau, ils n'ont pas une hymne avec laquelle ils peuvent se rassembler. Alors on leur donne une maison au village olympique, on leur donne comme drapeau le drapeau olympique et on leur donne comme hymne olympique et on a mis des écrans dans beaucoup de camps de réfugiés dans tout le monde qui pour permettre là aux réfugiés de suivre la cérémonie. Et après, les réponses qu'on a eues ont très clairement indiqué que c'était un moment d'une immense fierté pour les réfugiés et leur a donné beaucoup, beaucoup d'espoir.
Thomas Barr, dans Les Athlètes de Dieu sur Europe 1, vous parlez de cette équipe des réfugiés. Il faut évoquer ce contexte international. On va revenir sur votre parcours, évidemment, mais il y a tellement de questions qu'on souhaite vous poser, notamment sur cette foi qui est la vôtre. Le contexte au mois de mars est très difficile. La guerre en Ukraine, la guerre en Iran. Comment le sport peut aider? Comment le sport peut rester aussi indépendant de ce qui se passe dans le monde et créer des ponts? J'ai un souvenir de ces Jeux de Pyeongchang où il y a eu cette cérémonie d'ouverture avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils étaient ensemble. Comment faire pour participer à créer des liens entre les peuples?
Alors, si vous donnez l'exemple de Pyeongchang avec cette équipe unifiée de Corée du Nord et du Sud, c'était un effort qui a duré 4 ans pour convaincre les deux, la Corée du Sud et la Corée du Nord, de finalement former cette équipe conjointe. Avec des phases et des vagues, c'était assez difficile parce que pas tout le monde l'a apprécié. Et à un moment donné, Corée du Sud n'est pas apprécié. L'autre moment, la Corée du Nord ne l'a apprécié. Certains moments, des grands pouvoirs du monde ne l'ont pas apprécié. Alors on a travaillé sur le plan politique, mais aussi sur le plan sportif d'abord. Et le mot clé et l'approche clé dans tous ces efforts, c'est pas l'indépendance. Personne dans la vie est indépendant. Nous sommes tous dépendants en quelque chose. On peut pas aussi dire le sport est apolitique. Mais le mot clé et l'approche clé, c'est la neutralité en ce qui concerne la politique. Et ça, si on reste neutre, si on explique ça très, très, très clairement aux parties différentes, qu'on ne peut pas prendre parti, les athlètes qu'on peut aider, le mouvement olympique dans leur pays, et avec des compétitions internationales, et en particulier avec les Jeuses olympiques, on peut finalement rassembler tout le monde, et on peut démontrer que si tout le monde respecte les mêmes règles, on aura une vie pacifique. Et on peut compétir avec toute force, mais on respecte les règles. Et après la compétition, on se serre la main, on respecte
l'adversaire
qui n'est pas ennemi.
Absolument.
Et on respecte soi-même et on respecte les règles. Et ça, c'est la contribution que le sport peut faire. On ne peut pas créer la paix. Ça, c'est loin.
On peut y contribuer.
On peut, je préfère dire, on peut créer une culture de la paix. Et on peut organiser une démonstration que la paix est possible.
Dans les athlètes de Dieu, petite tradition, une carte, elle est là, et vous pouvez la retourner, et vous aurez une petite question.
Difficile à dire, parce que...
Le lieu qui vous apaise.
Oui. On peut s'apaiser dans tous les lieux.
Et même dans un stade
Oui, même dans un stade.
Beaucoup d'athlètes ont besoin de s'apaiser dans le stade.
Là, sur la piste d'escrime, il faut être en paix, dans certaines chambres de paix. La paix, ce n'est pas lié à un lieu, c'est un mode spirituel. Et pour moi, ce n'est pas lié à un lieu.
Pourtant, Thomas Barr, sur Europe 1, vous avez participé à la création de l'aumônerie olympique. C'était à Paris, au JO, et les cinq grandes religions, des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous, des bouddhistes, étaient représentés, pouvaient s'y recueillir. Même ceux qui n'ont pas de foi pouvaient venir. Et ça, c'est important aussi, Thomas Barr.
Oui, c'était important, je pense, et... Mais l'idée, au début, était une autre, je dois admettre, parce que en préparant pour le jeu de Paris, j'ai un grand ami français qui est peut-être le meilleur connaisseur de Pierre de Coubertin.
Le fondateur des Jeux Olympiques, qui a renouvelé les Jeux Olympiques après la création des Grecs.
Voilà, et lui, là, c'est cet ami, il s'appelle Jean Dury. Pour un déjeuner à Lausanne, il m'a emporté une quittance écrite à main par Pierre de Coubertin, où il a payé pour le fleur et le cœur d'une messe à Notre-Dame à l'aube de Jeux de Paris.
En 1924 ?
Oui.
Ah oui, donc c'est incroyable, c'était la...
Et là j'ai dit, alors, pourquoi pas faire...
La même chose.
La même chose. On ne peut pas faire juste une messe, et ça aussi... aussi, si concerne les religions, le CIO doit rester neutre comme Absolument. Organisation. J'ai commencé à penser de contacter mes amis français, si on peut pas organiser une célébration interreligieuse à l'aube de Jeux de Paris. Après l'incendie de Notre-Dame, le CIO nous a contribué parce que nous avons espéré que pour le jeu, Notre-Dame...
Alors, pas tout à fait, mais elle était pratiquement prête.
Oui, mais...
C'était le souhait du président, demande du président Emmanuel Macron.
Mais c'était pas possible d'organiser quelque chose, juste une petite célébration avec, je pense, ce qu'ils sont offerts à la fin, c'était 100 personnes.
C'était un beau moment.
Et après, parce que ça n'était pas possible, j'ai parlé avec Holy Games là, on est arrivé à la solution, finalement, d'organiser cette célébration interreligieuse sur le parvis de Notre-Dame. Mmh. Et l'Église catholique française a organisé la messe pour commémorer le début de la trêve olympique à la Madeleine.
Magnifique. C'est vrai qu'à la Madeleine, il y a eu une chapelle des sportifs provisoire pendant les Jeux olympiques qui était très très belle. On voudrait vous demander, Thomas Barr sur Europe 1, de nous parler de cette aumônerie qui était présente dans le village olympique. Parce qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, en tant que président du CIO, cette instance est à part du religieux, mais a permis à ceux qui le souhaitaient de venir se recueillir.
Oui, alors c'est ma propre expérience. Quand moi j'étais athlète et quand moi j'étais président du comité national olympique allemand, on avait toujours nos aumôniers avec nous. Mmh. Des deux églises chrétiennes, ils sont toujours accompagnés les équipes olympiques. Cette expérience m'a montré que pas la majorité des athlètes, mais pour un nombre significatif des athlètes, c'est important et il y a des moments où ils ont besoin d'une assistance, d'une aide spirituelle. C'est pourquoi quand on m'a présenté ce projet, ça allait sans dire.
Ça faisait sens. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Jean-Luc Sergent, en quelques mots, vous pouvez nous le confirmer, vous êtes aumônier des sportifs.
Oui.
Avoir un lieu de rassemblement, ou en tout cas être accompagné, ça aide.
Ça aide. C'est forcément. J'étais sur le village olympique pendant Paris 2024, mais on l'a parlé tout à l'heure de la présence. Mmh. On a parlé aussi de la victoire, c'est sûr, mais il y a les défaites, il y a les blessures, il y a la préparation mentale, il y a peut-être d'autres choses qui se passent dans la vie personnelle. Qu'on ramène sur le village olympique. Donc il y a multitude de choses, il y a remercier. On a gagné, on veut peut-être aussi être dans la gratitude. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à processer. Et donc oui, il y a des équipes d'aumônerie de toutes les religions et de toutes les confessions chrétiennes. Et on est là pour ça. On est là pour, on va dire, amener cette présence sur les villages, présence de Dieu, et aussi prier avec eux, les écouter, toutes choses de ce genre. En fait, c'est très vaste comme travail, en fait,
tout en restant neutre. C'est-à-dire que le religieux, c'est indépendant du mouvement olympique.
Même le religieux n'est pas indépendant. Mais pour les CIO, de nouveau, c'est comme avec la politique, on doit rester neutre.
On doit accueillir.
Tout le monde qui respecte nos règles. Ça, c'est l'organisation. Mais les individus, c'est une autre chose. Et les athlètes, comme vous venez de dire, il y a, pour beaucoup d'entre eux, il y a des moments difficiles pendant les Jeux olympiques où en préparant pour les Jeux olympiques. Et là, cet aumônier sont une grande aide. Et c'était une idée brillante et j'espère que le futur comité d'organisation vont suivre cet exemple.
Thomas Barr est dans l'émission Les athlètes de Dieu et j'aimerais qu'on revienne un peu sur vos débuts, qu'on parle de qui vous êtes. Vous venez de Bavière, c'est ça? Vous êtes allemand. Et est-ce que votre famille était passionnée d'escrime? Est-ce qu'elle était croyante? Comment ça s'est passé, cette double casquette, j'allais dire, d'à la fois athlète de Dieu et athlète sportif?
Ma mère en particulier, mes parents, toute la famille était très chrétienne. Et ma sœur et moi-même ont été éduqués dans une manière chrétienne. L'escrime n'a pas encore existé dans notre petite ville où on a vécu. Ça, c'est une autre chose, mais déjà...
Mais vous avez découvert comment l'escrime, s'il n'y avait pas d'escrime sur place?
Ça, c'est une histoire peut-être trop longue pour en quelques mots. Moi, je voulais devenir et j'ai joué au foot dans les rues. Chaque jour.
Et va falloir venir chez Jacques Vendroux au Variété Club de France.
Hein. Alors, j'étais un petit garçon qui était, aujourd'hui, on dirait hyperactif. Et là, mes parents ont dit à un certain moment, maintenant tu vas joindre un club sportif. J'ai dit oui, bien sûr, parce que foot. Non, c'est pas le foot, c'est l'escrime. Qu'est-ce que c'est l'escrime? Alors on a discuté et j'ai refusé. Là, j'avais 6 ans, j'ai refusé de joindre l'escrime. Et à un moment donné, mes parents sont venus et ils se sont dit, alors, tu sais, dans ces clubs, c'est pas seulement l'escrime, ils font aussi des exercices sportifs. Général, et ça va t'aider beaucoup pour le foot. Et moi, j'ai vendu cet argument. Et à la fin, il y avait là un entraîneur très jeune, charismatique. Et c'est comme ça, c'était pas le foot, c'était l'escrime.
Et vous vous êtes pris au jeu, vous vous êtes passionné pour... l'utilisation d'une arme qui est le fleuret, ça aurait pu être le sabre d'ailleurs, l'épée, mais enfin ça a été le fleuret. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous rêviez d'être champion olympique? Vous êtes devenu champion olympique, c'est quand même incroyable.
Oui, mais là, à l'âge de 6 ans, aucune idée de l'escrime, on n'a pas rêvé. C'était petit à petit. Ça s'est développé pas à pas. Là, Paris a joué aussi un rôle important parce qu'il y avait beaucoup de compétitions, de Coupes du Monde. Ici, à Paris, au stade de Coubertin, c'est pourquoi hier, j'ai pris l'opportunité de passer avant l'église et la chapelle. Je suis passé au stade de Coubertin me rappeler des moments extraordinaires dans ce stade.
Ah oui, c'est vrai, ça vous a marqué ce stade où vous avez pu gagner des tournois?
Oui, c'était un des stades, mais quand même, Paris, la ville de Pierre de Coubertin, le stade de Coubertin et des Coupes du Monde, très populaire. Ici en France, et d'avoir ces compétitions là-bas, jusqu'à maintenant, ça me donne
la chair de poule, voilà, expression très française où on a des frissons de joie.
Ouais.
Une des dernières cartes qu'on va vous donner, Thomas Barr.
Je ne sais pas comment expliquer
En français. Alors, on va le faire en anglais.
Non, on va le faire en allemand.
En allemand. Yeah. Alors là, ça va être compliqué pour nous. Attends, Jean-Luc,
L'intelligence artificielle.
Non, vous allez le comprendre. Das ist das Gleichnis von den Talenten. Les talents.
Oui. Ah, la parabole des talents.
La parabole des talents.
Oui. Oui. On a cinq talents, mais en fonction des talents qu'on a, il faut les...
Les talents que Dieu nous a donnés et nous a confiés, c'est le mot plus approprié, et que c'est notre responsabilité, pas d'être satisfait avec ces dons de Dieu, mais de développer ces talents qu'il nous a présentés.
Donc, il vous a donné beaucoup de talents. président, mais vous avez bien exploité vos talents.
Et il y a surtout cette phrase de Jésus à la fin de cette parabole qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Cette idée qu'il y a Dieu qui nous regarde et qui dit « Bravo ». Bravo Thomas pour tout ce que tu as fait. Voilà, tu as été fidèle avec les talents que tu as reçus.
J'espère qu'il dit ça. On sera un peu plus tard.
Oui.
Président, on vient de vous donner le Nouveau Testament des sportifs et vous avez cité donc ce passage de l'Évangile. On aimerait vous le faire lire.
Alors, c'est le moment où Jésus dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur.
C'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est beau, mais ça m'a aussi fait, à un moment donné, quelques difficultés, parce qu'on m'avait demandé de contribuer à un livre religieux. Une explanation de ces paraboles des talents. Et moi, j'ai choisi the headline.
Le titre, oui.
Le titre, Jésus fordert Leistung. Alors, Jésus demande des efforts. Alors, l'église officielle, pas tout le monde était content avec cette... explication de parabole des talents.
Mais il y a quelque chose de fort, parce qu'on est aussi pendant le carême. Et donc c'est vrai qu'il y a cette discipline d'un sportif qui, parfois, dans le monde spirituel, dans la tradition chrétienne, est importante aussi. On oublie.
Mais ça m'a accompagné pendant toute ma vie, même à notre mariage.
Ah oui ?
Avec mon épouse Claudia. Maintenant, pour 47 années,
bravo.
On avait choisi cette parabole.
Oui.
Et là, le prêtre aussi, dans son sermon, a interprété cette parabole des talents.
Vous venez de transmettre le flambeau à Christy Coventry. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
C'était un moment de choix parce que le résultat a montré que le CIO comme organisation est unie. Elle était élue en première course contre 5 candidats. Et ça, c'était une grande démonstration d'unité du mouvement olympique derrière elle.
De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui, durant toutes ces années de mandat à la tête du CIO?
J'aime pas trop le mot fierté. C'est plutôt satisfaction. On a évoqué une décision, c'était
les réfugiés.
La création de l'équipe de réfugiés. Et il y a des autres moments, mais c'est... Je pense que ce n'est pas à moi de juger là mon mandat comme président, c'est aux autres. Et peut-être aussi avec une certaine distance. Maintenant, c'est encore trop frais.
Thomas Barr, peut-on diriger une grande instance internationale en restant fidèle à ses convictions spirituelles?
De nouveau, je ne sais pas comment dirais-je en français... mon compass.
Ma boussole. Ma direction.
Ont toujours été les valeurs. Les valeurs olympiques qui rassemblent beaucoup aux valeurs chrétiennes. Et je suis convaincu que sans s'orienter après ces valeurs, on ne peut pas gérer une organisation, une telle organisation avec 206 comités nationaux olympiques, avec des douzaines des fédérations internationales, avec des millions d'athlètes et des autres parties prenantes. Tout le monde doit savoir... quelle est votre direction, quelle est votre orientation. Et ça, ce sont les valeurs olympiques. qui s'impose et ça j'ai toujours essayé de suivre.
Et qui contribue justement à participer à un bon épanouissement des sportifs, des athlètes, pour qu'ils puissent se donner à fond et faire plaisir à tous les spectateurs. J'ai une dernière carte, Thomas Barre, à vous présenter. N'hésitez pas à la lire pour nos auditeurs d'Europe 1.
Jean-Paul II.
Quelle est la figure du saint qui vous inspire le plus ? Votre
réponse ? Jean-Paul II.
Jean-Paul II, pourquoi Jean-Paul II ? Parce que c'était un sportif, on sait qu'il aimait beaucoup la montagne, le ski notamment.
Parce qu'il il a beaucoup apprécié le sport, il a pratiqué le sport, il a fait grande promotion pour les valeurs olympiques. Il m'a aussi, quand j'étais élu président du CIO, il m'a servi comme exemple. Comment il a ouvert l'église à la société. Ça, c'était quelque chose que le CIO avait besoin aussi quand j'étais élu. Pour ça, il faut avoir un peu de courage. Et j'ai vu Jean-Paul II, il avait ce courage et il a réussi dans tout ça. Et c'est pourquoi, pour moi,
Jean-Paul II est la figure.
Il me parle, il me parle vraiment.
Par l'humilité aussi, par on sait qu'à la fin de sa vie, il a beaucoup souffert. Un peu comme le pape François aussi, qui a surmonté ses épreuves de la fatigue physique, de la maladie. C'est quelque chose aussi d'important. Et puis la paix aussi qu'il émanait. Il y avait une figure, quand on le regardait, on était en paix.
Le pape François, le pape Jean-Paul II... était très très différent. Et aussi, je pense, j'ai pas rencontré de pape Jean-Paul II dans ces dernières
années.
Années, je l'ai rencontré là, mais dans une audience d'une centaine de personnes seulement au jubilé à l'an 2000. Mais le pape François, j'ai rencontré deux fois, même dans ces derniers mois de sa vie. Et ça, je suis un peu déchiré, parce que de voir cette souffrance avec Jean-Paul II pendant ce jubilé, il était déjà malade. Pour moi, c'était plutôt l'impression, c'était pas la souffrance, c'était cette solitude qui le protocole du Vatican demande au pape. On voit un homme malade, fragile, et on lui expose sur un stage et on lui laisse
devant tout le monde, bien sûr.
Devant tout le monde et tout seul. Ça m'a beaucoup touché. Moi, j'ai compris pape Jean-Paul II comme assez pragmatique, comme un leader assez pragmatique. Pape François était un peu plus spirituel et pas si pragmatique à la fin.
Et on pose quand même la question, quand on préparait cette émission avec Isabelle de Châtelut de Holy Games, on se disait qu'il y a quand même eu un pape bavarois, un pape qui était Benoît XVI, cardinal Ratzinger. Vous l'avez un peu côtoyé, il était...
Lui, il n'avait aucune idée du sport. Pour lui, il pouvait, je pense qu'il ne pouvait pas comprendre comme... là, il y a des personnes qui courent après un ballon ou qui courent 100 mètres seulement pour courir vite. Je pense que c'était hors des imaginations.
C'était plutôt un intellectuel, c'est vrai, Benoît XVI.
Oui, mais on peut être les deux. Alors, vous voyez, Jean-Paul II était un intellectuel pragmatique. Le pape François était un intellectuel. Le pape Léon est un intellectuel sportif, même. Alors, on peut avoir les deux dans le meilleur du monde.
C'est vrai. Et vous avez un peu de ça, d'ailleurs, hein, Thomas Barre. Vous avez ce côté spirituel de réflexion et ce côté sportif qui vous a animé toute votre vie, en fait. On parle beaucoup de la tête et des jambes. C'est important, hein.
Oui, j'ai une certaine expérience spirituelle et je l'ai vécu en particulier quand j'ai fait l'année passée, après mon mandat, le Camino de Santiago. Et c'était une expérience spirituelle extraordinaire. J'avais déjà des grands espoirs, mais ce que j'ai vécu, c'était loin des expériences dans une manière positive. Alors nous sommes tous, dans une manière ou l'autre, spirituels. On les réalise pas toujours, mais dans de tels moments, on les réalise.
Vous avez un nom qui ne laisse pas indifférent. Vous vous appelez Thomas Bach. En français, on dit Bach. Jean-Sébastien Bach, qui est l'un des plus grands compositeurs que l'histoire nous a donné. Je ne sais pas si vous avez des liens de famille avec lui.
Désolé de vous dire que mon seul talent musical, c'est mon nom. J'adore la musique, mais malheureusement, je ne peux pas produire la musique, ni chanter, ni jouer un instrument.
Mais en revanche, et c'est une habitude dans cette émission, on demande aux athlètes de Dieu s'il y a une musique qui leur plaît, c'est-à-dire une musique qui apaise, ça peut être un chant religieux, ça peut être un chant, une musique, même une musique bouddhiste à la limite, peu importe, mais quelque chose qui leur permet de se ressourcer.
Alors, il y a un chant religieux, c'est peut-être un chant, là je dois le dire en allemand, ça s'appelle... Großer Gott, wir loben dich, grand Dieu, nous te louons. Okay. Ça a un autre texte et c'était très très émouvant. Au début de la messe, à l'occasion là, du jubilé sportif, à Saint-Pierre, et là ces chants, il s'agit, si j'ai bien compris l'italien, de la Trinité.
Oui. Hein?
Ouais. Et il y a le Sanctus de Handel, et sur le plan peut-être plutôt pop, mais quand même spirituel, c'est Imagine, from John Lennon. Même
alors si, ça, John Lennon, c'est dans nos cordes. Hein. Si. Le chant allemand, c'est plus compliqué à diffuser, mais John Lennon, je pense, on va pouvoir retrouver.
Le Sanctus de Handel.
Ouais, le Sanctus de Handel aussi,
oui,
c'est possible.
Mais là, il faut faire attention dans une telle émission, parce que le texte n'est pas apprécié nécessairement tout le texte par
le Sanctus de Handel.
Par l'Église,
non.
Imagine. Parce qu'il dit imagine there is no religion.
Ah oui, donc effectivement, c'est pas exactement le sens de l'émission. On est en train de dire que les religions sont importantes pour la paix et que on le rappelle hein, d'ailleurs, c'est assez important et je voulais vous le dire. Toutes les religions sont belles et le but de ce podcast c'est justement de permettre à toutes les personnes bien de découvrir Dieu en toute liberté et dans la joie et dans la paix. Voilà.
Oui, mais mon interprétation, c'est que John Lennon, à l'époque, il a vu que certaines religions sont, comment dirais-je, misused pour la confrontation, pour la guerre même. Et là aussi, alors, notre foi chrétienne a eu et a vécu des époques... provoquant des guerres pour cause des religions. Et c'est pourquoi il a mis, alors il y a plusieurs raisons pour la guerre dans différents stages de la vie humaine, les nations et aussi les religions. Et c'est pourquoi, à mon interprétation, il a mis ce texte-là.
Thomas Bach, merci infiniment d'être venu dans cette émission Les Athlètes de Dieu. On termine avec John Lennon. John Lennon, c'est magnifique. Ce chant est très mélodieux. Vous avez un sourire qui nous ravit. voudrais vous remercier aussi pour tout ce que vous avez fait pour le monde du sport, pour tous ces Jeux Olympiques qu'on a pu voir, couvrir, en tout cas en ce qui me concerne comme journaliste. Et puis on a une dernière question à vous poser, elle est aussi traditionnelle. On remercie évidemment Jean-Luc Sergent, pasteur qui est venu de Londres exprès pour être avec nous dans cette émission. Thomas Barr, vous êtes, on l'a vu, on l'a entendu, un athlète de Dieu. À quel autre athlète de Dieu souhaiteriez-vous transmettre le flambeau ?
À tous les athlètes olympiques.
Merci Thomas Barr.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.